Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand des humains sont-ils réduits en esclavage? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Paulin Ismar. Aujourd'hui, troisième épisode, Rome et l'Empire romain.
Nous avons ici deux macédoniennes jumelles, deux créatures superbes, aptes à être danseuses ou servantes pour une riche patricienne. On trouve une fois l'an seulement leur pareil aux ventes aux enchères de Rome. Elles ne seront pas vendues séparément. Combien m'en offre-t-on?
J'offre 500 pièces d'or.
Pendant plus de 1000 ans, la société romaine a été esclavagiste, comme la Grèce antique. Depuis sa fondation légendaire au 8e siècle avant notre ère, jusqu'à la chute de l'Empire au 5e siècle après Jésus-Christ. Le nombre d'esclaves ne cesse d'augmenter quand la République romaine se lance dans de grandes conquêtes militaires qui l'amèneront à dominer tout le bassin méditerranéen. Chaque nouvelle victoire est l'occasion de réduire en esclavage des prisonniers. Par exemple, quand Jules César, après des années de guerre et de massacres, soumet la Gaule en -51, il capture 1 million de Gaulois, soit 1/10 de la population de Gaule, qui sont déportés en Italie pour y être vendus comme esclaves, une source des richesses considérables pour César. À Rome, comme en Grèce, l'esclave n'a aucun droit, aucune personnalité juridique, il ne peut rien posséder, ne peut pas se marier ni élever des enfants, il n'a pas de nom, juste un prénom. Le seul moyen d'échapper à l'esclavage est l'affranchissement. Lors de la cérémonie, le maître touche la tête de son esclave avec une baguette et déclare « Je dis que cet homme est libre ». Puis, l'affranchi coiffe le bonnet phrygien en peau de mouton peinte en rouge, un symbole de liberté qui sera repris un jour par nos sans-culottes. L'affranchi prend alors le nom et le prénom de son ancien maître en y ajoutant son prénom d'esclave. Mais il existe une autre manière d'échapper à l'esclavage, plus périlleuse, la révolte.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves? Je sais que nous sommes tous frères et je sais que nous sommes libres.
Contrairement à la Grèce, dans la société romaine, la menace d'une révolte d'esclaves est permanente. Une menace qui devient bien réelle à la fin de la République, quand trois grands soulèvements éclatent, qu'on appelle les guerres serviles. Les deux premières, en Sicile, à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, amènent les esclaves qui travaillent comme paysans ou bergers à se rendre maîtres d'une bonne partie de la Sicile pendant près d'une dizaine d'années chacune. La première est menée par Eunus, un esclave originaire de Syrie qui, par son mysticisme, a acquis un ascendant sur ses compagnons. Révoltés par le traitement cruel infligé par leur maître, ces esclaves s'emparent de la ville d'Enna, tuent leur maître et Eunus est proclamé roi. Mais 7 ans plus tard, non sans mal, l'armée romaine écrase le royaume des esclaves. Eunus est capturé et après le suicide collectif de ses compagnons, il meurt en prison. Fin de la première guerre servile. La répression de la deuxième, également en Sicile, fera 20 000 victimes. La troisième guerre servile, la dernière, mais aussi celle qui fera le plus trembler Rome, est celle de Spartacus, entrée dans la légende. En -73, une révolte éclate à Capoue, près de Naples, menée par un certain Spartacus, un gladiateur qui réussit à réunir une armée de plusieurs dizaines de milliers d'esclaves. En guise d'armes, ils n'ont que des bâtons et des paniers en osier en guise de boucliers. Victorieuse pendant 2 ans, au prix d'affrontements d'une rare violence, l'armée des esclaves est anéantie par pas moins de 10 légions romaines et Spartacus est tué au combat. La répression sera sanglante. Sur la route qui mène de Capoue à Rome, 6 000 esclaves seront crucifiés. Paulin Ismar, le personnage de Spartacus a traversé les siècles. Il symbolise l'esclave qui se libère de ses chaînes. On se souvient du film de Kubrick avec Kirk Douglas ou aussi de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, les révolutionnaires allemands qui ont donné ce nom Spartacus à leur mouvement révolutionnaire en 1916. Qu'est-ce que l'histoire de Spartacus nous révèle de l'esclavage à Rome ?
Spartacus, il s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans une séquence qui en fait commence au milieu du 2e siècle, où dans ce contexte d'expansion romaine dans l'ensemble de la Méditerranée, les structures de l'esclavage sont sensiblement modifiées. C'est-à-dire que de très très nombreux individus deviennent captifs, des individus qui peut-être jamais au cours de leur vie n'auraient imaginé être soumis à l'esclavage, deviennent esclaves dans ce contexte à partir des années 130 avant notre ère. Effectivement, on observe plusieurs révoltes très, très impressionnantes. Et une des choses les plus impressionnantes, je dois dire, c'est pas seulement le nombre considérable d'esclaves qui entrent en guerre contre l'État romain. Et effectivement, on parle, et les auteurs anciens parlent de guerre servile. C'est pas seulement des révoltes, c'est des guerres serviles. Mais quelque chose de très impressionnant, c'est la façon dont ces révoltes se propagent en Méditerranée. En Attique, autour d'Athènes, ou en Asie mineure. On était au courant de ce qui se passait en Italie ou en Sicile, très certainement, et quelques années plus tard, on a une révolte qui se déroule en Attique, il y a quelque chose de une grande révolte qui se déploie en Asie mineure, à Délos aussi, au centre de la mer Égée. Il y a vraiment une onde de révolte conduite par des esclaves qui traverse une grande partie de la Méditerranée. Et Spartacus est la dernière grande éruption près de 60 ans après ces premiers soulèvements des années 130.
La condition de ces esclaves paysans dans ces exploitations en Sicile, par exemple, ailleurs aussi, elles étaient vraiment très dures, ces conditions. Pas de famille, ils vivent dans des casernes, ils n'ont pas le droit de sortir. Ceux qui sont jugés dangereux sont enfermés, voire enchaînés dans des cellules spéciales, les ergastules. C'est des conditions de vie extrêmement difficiles.
Tout à fait, et qui semblent tout de même assez nouvelle. C'est-à-dire que la systématisation de ces pratiques extrêmement violentes à l'égard des esclaves semble quand même assez nouvelle en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue, disons, dans le courant du IIe siècle, avant notre ère.
Et le maître a-t-il le droit de vie et de mort sur ces esclaves?
Plus exactement, il n'existe pas véritablement de procédure par lesquelles on pourrait condamner un maître qui aurait mis à mort un de ses esclaves.
Parce que l'esclave n'a pas d'existence juridique, c'est ça?
Il est vraiment sous la propriété intégrale de son maître. Et on dit traditionnellement, vous savez, la propriété en droit romain, c'est trois éléments. C'est l'usus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose ou de la personne qu'on possède. Le fructus, c'est-à-dire le droit de tirer un profit du travail de la personne qu'on possède. Et le dernier point, c'est l'abusus, c'est-à-dire le droit d'user d'une chose qui va jusqu'au droit de la détruire. Donc c'est d'une façon constitutive de ce qu'est la propriété dans son sens maximaliste. Donc il demeure néanmoins qu'il y a une morale, si vous voulez, de la façon dont un bon maître doit se comporter. Et il y a bien une façon d'être maître, aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain. Et une façon d'être un bon maître, c'est-à-dire un maître à la fois exigeant, potentiellement violent à l'égard des esclaves qu'il possède, mais aussi juste, ça comporte la question de l'affranchissement. L'affranchissement, c'est vraiment une dimension essentielle des sociétés gréco-romaines et sans lesquelles on ne comprend pas très bien ce qu'est l'esclavage dans le monde antique. Il y a quand même très souvent dans le monde antique une représentation de l'esclavage comme devant a priori être un état temporaire qui doit s'achever la plupart du temps par l'affranchissement.
On a parlé, Paulin Ismar, des hommes, essentiellement, les ouvriers, les gladiateurs. Il y a aussi des femmes et des enfants qui sont esclaves. À quoi sont-ils employés, plutôt aux travaux domestiques ou sexuels?
Il y a tout ce qu'on appelle, mais c'est un terme qui est pas forcément très satisfaisant, l'esclavage domestique, c'est-à-dire que toutes les femmes qui travaillent en tant qu'esclaves dans la demeure de leur maître. Il y a une dimension évidemment essentielle de l'esclavage féminin qui est celui de l'exploitation sexuelle. Donc l'exploitation sexuelle dans la demeure du maître et dans un secteur fondamental dans ces sociétés qui est celui de la prostitution. On trouve aussi des femmes esclaves qui travaillent dans la filature, dans des activités textiles, parfois sous la forme d'ateliers qui peuvent être de grande taille. Donc l'esclavage féminin, c'est une dimension absolument fondamentale de ces sociétés.
Et les enfants aussi.
Des enfants esclaves qui peuvent être nés à l'intérieur de ces sociétés esclavagistes, des enfants qui ont été parfois achetés sur des marchés d'esclaves, c'est très bien attesté, Mais il y a aussi un phénomène important dans l'esclavage gréco-romain, c'est le rôle joué par l'exposition des enfants. C'est-à-dire cette pratique très courante qui veut qu'un enfant dont on ne veut pas, on l'expose dans des lieux qui sont clairement déterminés, souvent aux frontières ou dans les espaces liminaires des cités. Ben, c'est une source de production d'esclaves tout à fait importante.
De nombreux esclaves,
en fait,
d'enfants,
ont été des enfants exposés. Voilà, des abandons d'enfants.
Merci Paulin Ismar. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'esclavage au Moyen-Âge en Occident.